Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les pays ont réagi assez différemment à la pandémie du coronavirus. Pour certains, ce fut la préoccupation majeure et unique. Pour d'autres, une préoccupation parmi d'autres. La Chine, la Russie et la Turquie en ont profité pour avancer leur pion sur l'échiquier international. Pour la Turquie, ce fut à l'évidence le cas avec la Libye. Ankara venant au secours du gouvernement légal de Tripoli aux abois s'est imposé en quelques mois comme l'acteur clé de la crise libyenne. Une victoire considérable pour le président Erdogan. La Libye est le premier producteur africain de pétrole devant le Nigeria et l'Algérie. À cela s'ajoute la revendication turque d'une zone économique exclusive, laquelle promet un regain de tension en Méditerranée orientale. Turquie, le retour, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Dorothée Schmidt, responsable du programme Moyen-Orient et Turquie à l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Jean Marcoux, professeur et titulaire de la chaire Méditerranée-Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Bonjour.
Bonjour.
Et Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient arabe et de la Corne de l'Afrique, membre du laboratoire Monde arabe et Méditerranée de l'Université de Tours. Bonjour.
Bonjour.
Commençons donc par la question libyenne pour parler de la Turquie et la façon dont le pays a géré le coronavirus et les conséquences de la pandémie sur les plans politiques et économiques. Au front syrien, l'armée turque a ajouté ces derniers mois celui de la Libye, où elle est désormais présente en Tripolitaine. Le premier ministre libyen, Fayez al-Sarraj, a été reçu il y a une dizaine de jours à Ankara par le président Erdogan. Le rapprochement d'Ankara avec Tripoli est antérieur à la période de pandémie que nous connaissons. En novembre dernier, un accord de coopération sécuritaire et militaire avait déjà été signé, ratifié en décembre par le Parlement turc. Dans la foulée, 7000 miliciens prélevés par Ankara sur le front syrien étaient transférés à Tripoli. La situation libyenne favorable au Premier ministre libyen dans son bras de fer avec le maréchal Khalifa Haftar, basé à l'est du pays à Benghazi et à la Turquie, vous paraît-elle définitive? Quelles conséquences pour la Turquie, Dorothée Schmidt?
Je crois que ce qui est très frappant, c'est que quand on écoute Tayyip Erdogan aujourd'hui exposer sa vision des relations internationales, il explique que la crise du Covid-19 a favorisé une égalisation dans les relations internationales. Il considère que c'est une opportunité pour pousser les capacités de puissance de la Turquie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que finalement, même si l'épidémie a frappé pas mal en Turquie, il y a eu beaucoup de contamination, ça continue, il y a eu assez peu de morts, c'est un système sanitaire qui est très moderne, qui a été modernisé par la KP, qui a bien résisté. Et en revanche, il y a vraiment la perception d'une sorte de crise structurelle de l'Occident qui permet, je pense, aujourd'hui de pousser à l'affrontement sur un certain nombre de terrains où la Turquie considère qu'elle est légitime à agir. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ce retour d'une diplomatie turque très offensive qui s'explique à la fois parce qu'on est dans un contexte de resserrement autoritaire du pouvoir en Turquie même, parce qu'on a une forme de militarisation des enjeux au Moyen-Orient en général, avec des conflits qui existent de toute façon et où finalement la Turquie peut participer parce qu'elle a une armée qui est puissante et qui aujourd'hui s'exerce à l'extérieur de ses frontières. Et puis on a cette idée d'un rééquilibrage avec les alliés traditionnels, avec une Turquie qui aujourd'hui est un peu en délicatesse avec la Russie, à la fois en Syrie et en Libye, et qui donc considère qu'elle peut mettre la pression sur les Européens et les Américains tout en tentant de se rapprocher d'eux finalement. Donc c'est un peu le moment d'Erdogan parce que c'est quelqu'un qui a une capacité à jouer des crises et à finalement se retremper son énergie et sa légitimité dans les crises qui est quand même assez inégalée.
Alors, on reparlera bien sûr du resserrement du pouvoir autoritaire en Turquie. Marc Lavergne, la Turquie légitime à agir, et particulièrement en Libye?
La Turquie, il faut bien voir qu'elle était un peu sur la défensive depuis l'échec des printemps arabes. Elle a vu un certain nombre de ses espoirs échouer en Égypte en particulier, avec l'élimination des frères musulmans de la scène et l'instauration du maréchal al-Sissi. Elle s'est trouvée confrontée aux pays producteurs de pétrole du Golfe, à l'exception du Qatar. Donc elle a été ces derniers temps finalement plutôt contenue. hein, dans ses ambitions. On l'a vu dernièrement au Soudan avec l'émergence l'an dernier d'un gouvernement démocratique qui a mis fin au projet turc de s'installer sur une base sur la mer Rouge. Et on a vu que la Turquie avait aussi des difficultés à s'implanter en Somalie face aux Émirats arabes unis. Et là, la crise libyenne lui a fourni l'occasion, finalement, de reprendre la main sur un nouveau terrain où on ne l'attendait qu'assez peu, finalement, et où de puissances fortes soutenaient le maréchal Haftar, qui s'est révélé, finalement, ne pas être en mesure de s'emparer de la capitale, comme il a essayé de le faire, à la faveur aussi du coronavirus.
Alors Jean-Marc Roux, grande victoire pour la Turquie qui a gagné à Tripoli un partenaire politique et financier de taille.
Oui, je crois que ce qui est assez impressionnant, c'est qu'effectivement la crise de l'épidémie n'a pas peiné la Turquie, puisqu'elle a construit son succès, en tout cas elle a retourné la situation en Libye pendant la crise épidémique, notamment avec cette offensive de drones, ce renforcement des supplétifs effectivement qui sont sur place, comme vous le disiez, et puis effectivement cette intensification de l'implication de l'armée turque dans la crise libyenne. Mais en même temps, c'est déjà un mouvement qui se dessinait bien avant l'épidémie et son contexte, puisque on avait finalement une offensive depuis 2018, une offensive de la Turquie en mer Égée, notamment sur cette question des forages, avec cet envoi de navires turcs de forage qui s'est intensifié justement aussi sans que le virus n'impacte réellement cette offensive, puisque la Turquie a encore acheté un troisième bateau au début de l'année qu'elle a commencé à envoyer sur les puits de forage. Donc il y a effectivement cette idée de la Turquie. La Turquie l'a dit à plusieurs reprises, face justement à une reconfiguration géopolitique de la situation en Méditerranée orientale, liée en partie d'ailleurs aux questions énergétiques, la Turquie finalement a lancé, je dirais, une offensive non seulement sur le plan terrestre, on l'a vu bon, bien sûr ces dernières années en Syrie, mais aussi sur le plan maritime, qui a été d'ailleurs théorisé par le contre-amiral qui était à la tête de la marine turque, le contre-amiral Cihat Yayıcı, par cette fameuse théorie de la patrie bleue, qui d'une certaine manière est à l'origine finalement de l'implication de la Turquie en Libye, parce que cette implication de la Turquie en Libye, elle est partie aussi de cette recherche par la Turquie d'un moyen de déborder en fait les pays riverains de Méditerranée orientale qui lui sont très largement hostiles. Donc c'est dans ce cadre géopolitique très large, je dirais, qu'il faut rétablir cette offensive libyenne de la Turquie qui effectivement lui ouvre des perspectives économiques, comme vous le suggériez, des perspectives énergétiques, compte tenu de la production énergétique de la Libye. Et il ne faut pas oublier qu'avant les printemps arabes, justement, la Libye était déjà très présente en Libye. La Turquie était déjà très présente en Libye. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères l'a dit il y a quelques jours, il faut renouer en fait avec notre présence en Libye. La Turquie, au moment des printemps arabes, a été obligée de rapatrier, je crois, près de 20 000 expatriés, ce qui montrait déjà cette implication. Et là, bien évidemment, ça démultiplie cette situation, et donc ça fait effectivement de la Turquie, à la fois en Méditerranée orientale, en Afrique de l'Est, une puissance qui est effectivement avec laquelle il va falloir compter.
Géopolitique. Marie-France Satin.
Alors, ces revendications maritimes turques que vous évoquiez à l'instant, Jean-Marc, ou énoncées donc dans une doctrine militaire connue sous le nom de Patrie Bleue, avec cette idée d'une Turquie attachée à projeter sa puissance non seulement en Méditerranée, mais aussi dans la mer Égée et la mer Noire. Dorothée Schmitt, quelques mots sur la question des activités de forage. Bon, on l'a bien compris, pétrole et gaz sont d'une certaine manière au centre de l'engagement turc en Libye. Les activités de forage vont commencer en juillet. On peut imaginer des tensions fortes à venir, avec la Grèce en particulier, et au-delà, l'Union européenne.
Alors, pour comprendre d'abord que la Turquie, pourquoi la Turquie est si offensive, en fait, militarise ces questions énergétiques, il faut savoir que c'est quelque chose d'absolument vital pour l'économie turque, puisque la Turquie est un pays qui ne produit pas lui-même l'énergie qu'il consomme et qui a eu une croissance très énergivore ces 15 dernières années, et qui cherche à diversifier ses sources d'énergie pour ne pas dépendre des embrouillamines géopolitiques régionaux. La Turquie étant proche du Qatar, importe par exemple une partie de son gaz du Qatar, mais elle a très longtemps importé aussi du pétrole et du gaz d'Iran. Et surtout, elle est très dépendante de la Russie pour son gaz. Donc il y a une volonté vitale de diversifier les sources d'approvisionnement pour éviter de se retrouver dans un tête-à-tête stratégique totalement verrouillé. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'offensive en Libye est très importante, à la fois parce que le gouvernement libyen peut être un client très important pour la Turquie, et puis aussi parce qu'elle peut lui fournir du gaz et du pétrole. Alors le problème, c'est que là, les potentielles guerres que la Turquie prépare en Méditerranée orientale, elles portent sur des ressources qui sont encore mal évaluées et dont on ne sait pas non plus comment est-ce qu'on va pouvoir non seulement les extraire, mais les conduire vers les lieux de leur consommation. Donc on en est au tout début seulement de ces affrontements symboliques, d'affrontements économiques ou affrontements militaires potentiels réels. Aujourd'hui, on a une sorte de fantasme sur l'éclosion de ce nouveau marché du gaz en Méditerranée, sauf que le gaz, du fait de la crise du Covid, de la crise générale sur les matières fossiles, est aujourd'hui une matière qui est peu demandée, qui est assez peu chère, et donc on a une espèce de paradoxe d'une Turquie très très offensive sur des terrains où finalement, si vous parlez avec des entreprises qui travaillent sur ces questions et des énergéticiens, ils considèrent que finalement l'intérêt de ce qu'on pourrait trouver aussi bien dans les forages en Libye qu'aujourd'hui à Chypre, ce n'est pas décisif, ce n'est pas si important que ça pour des très gros acteurs. Mais pour la Turquie, c'est vital. Maintenant, je pense que dans les offensives et le travail militaire qui est fait aussi bien en Syrie qu'en Libye, il y a un autre aspect très important qui est celui de la consolidation de l'économie de la défense turque, puisque la Turquie aujourd'hui veut devenir un producteur d'armement majeure, elle veut devenir un exportateur d'armement et elle s'est beaucoup vantée, notamment lors de son opération à Afrin en Turquie, d'avoir fait l'opération uniquement avec des armements turcs. Et Jean-Marco a parlé des drones turcs dont aujourd'hui tout le monde parle, aussi bien en Syrie qu'en Libye. Et je crois qu'il y a aussi cet aspect de démonstration de capacité technique qui est extrêmement important pour les Turcs.
Alors, est-ce que la question libyenne renforce la Turquie sur un autre terrain évoqué précédemment? C'est celui de la Syrie. On posera peut-être la question. En tout cas, au-delà des questions purement énergétiques, Marc Lavergne, ce qui se passe en Libye aujourd'hui rebat beaucoup de cartes en faveur de la Turquie et à plusieurs niveaux, vous le dites dans un article paru cette semaine. La Turquie qui pourrait désormais disposer en Libye d'un nouvel instrument de contrôle des routes migratoires vers l'Europe. Et puis la Turquie, maintenue depuis des décennies aux marges de l'Europe, se trouve désormais en mesure de s'imposer au cœur des préoccupations européennes.
Oui, je crois que c'est un élément important et qui a peut-être été sous-estimé au départ vu de l'Europe. Mais pour en venir un peu sur la question de l'approvisionnement énergétique de la Libye, la messe n'est pas dite. C'est-à-dire que les champs pétroliers de Libye sont encore entre les mains des forces du maréchal Haftar et que la prise ou la libération ou bien... disons, le soulagement de la capitale, de Tripoli, et la levée de ce siège qui qui l'entourait depuis un an, c'est une chose, mais la prise des champs pétroliers sans les dévaster, hein, d'une certaine manière, pour les rendre productifs à nouveau, ça va être une affaire qui est encore compliquée sur le plan militaire, avec sans doute des renforcements qui viendront des pays du Golfe, des pays alliés qu'on a cités, à travers l'Égypte, pour remuscler le maréchal Haftar ou son successeur. Hein, je ne pense pas que les troupes libyennes, les troupes turques qui ont été engagées en Libye jusqu'à présent, qui sont surtout des miliciens venus de Syrie, seront suffisants pour l'emporter d'une manière globale, pour s'emparer des puits de pétrole et puis aussi de la Cyrénaïque ultérieurement. Alors la question des réfugiés là-dessus, bien sûr, la Libye est devenue finalement un succès d'année pour les gens qui se pressaient sur les côtes turques pour aller traverser la mer Égée et se rendre aux îles grecques. Beaucoup de ces flux qui sont gérés par des réseaux de trafiquants, de migrants, se dirige aujourd'hui vers la Libye. Donc là, l'Europe est un petit peu démunie parce que les pays du nord de l'Europe ne sont pas tout à fait sur la même ligne, même au sein de Frontex, avec les pays qui sont en première ligne, c'est-à-dire l'Italie et la France. Je crois qu'effectivement, il y a là, pour le pouvoir turc, une clé qui peut permettre de fermer ou d'ouvrir à volonté un robinet, donc un moyen de pression sur l'Europe extrêmement fort.
Alors, vous l'avez dit, Marc Lavergne, la messe n'est pas dite en Libye. Jean-Marc Roux, on a appris que le président turc Erdogan et le président américain s'étaient parlé en début de semaine dernière pour convenir de poursuivre, entre guillemets, leur coopération étroite en Libye. On évoque une possible initiative que les deux pays pourraient prendre ensemble, mais sans fournir de précisions. C'est d'une certaine manière un retour de la Turquie vers Washington, qui était tout de même des distances avaient été prises entre les deux pays et sur la question libyenne, une entente possible.
Ben oui, moi j'ai l'impression que justement après ces succès militaires, territoriaux des derniers jours, la Turquie essaye de profiter de l'opportunité pour essayer de lancer un grand jeu diplomatique. Bon, elle s'est attachée notamment ces derniers jours, comme vous le disiez, à se rapprocher des États-Unis, et effectivement elle semble avoir obtenu un appui des États-Unis dans sa stratégie libyenne. J'observe que hier, et c'est pas la première fois qu'il le fait, Recep Tayyip Erdogan a eu une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Et donc on a l'impression aussi que actuellement la Turquie cherche à dialoguer également avec la Russie, et que d'une certaine manière elle est en train de réexporter son scénario syrien, son grand écart syrien finalement entre la Russie d'un côté, les États-Unis de Donald Trump plus particulièrement de l'autre, en Libye. Donc on a l'impression qu'à l'heure actuelle, quand on regarde justement les positions du gouvernement turc, les positions d'un certain nombre d'experts, la Turquie essaie de se positionner, de lancer une sorte de grands jeux diplomatiques en Libye, en se positionnant finalement au cœur de ce grand jeu, et en essayant de, à la fois de s'assurer le soutien des États-Unis, de revenir un petit peu auprès de ses alliés occidentaux, sans perdre le dialogue avec les Russes, et en particulier en reproduisant un peu cette convergence d'opportunités qui avait été utilisée en Syrie. Donc c'est un jeu complexe, mais ça montre là encore la capacité justement à l'heure actuelle de la Turquie de se comporter en véritable acteur régional d'équilibre dans la crise libyenne.
Vous écoutez Géopolitique.
vous retrouve, Jean-Marc Coux, ainsi que Marc Lavergne et Dorothée Schmitt, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Turquie. Nous retrouvons nos invités, Dorothée Schmitt, responsable du programme Moyen-Orient et Turquie à l'IFRI. Jean-Marc Coux, professeur et titulaire de la chaire Méditerranée-Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Et Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient arabe et de la Corne de l'Afrique, membre du laboratoire Monde arabe et Méditerranée de l'Université de Tours. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission, la place aujourd'hui retrouvée ou en tout cas occupée par Ankara en Libye par ce partenariat avec le Premier ministre libyen. Et nous évoquions ce besoin fort de ce succès diplomatique, ce besoin pour Ankara de chercher à dialoguer. On a parlé des États-Unis. Parlons pour en dire quelques mots de la Russie. L'effondrement toujours en Libye du maréchal Haftar est une cuisante défaite pour la Russie et nombre de pays occidentaux, dont la France. L'Égypte également, qui est grande perdante de ce duel. Qu'est-ce que l'on peut imaginer, Dorothée Schmitt, dans le dialogue renoué, ou cette volonté de la part d'Ankara de renouer un certain dialogue avec Moscou? Est-ce qu'on peut imaginer une entente sur le compromis suivant, la Turquie qui laisserait la Russie et le régime syrien reconquérir la poche d'Idlib tout en laissant entrevoir un retrait partiel de son armée du nord de la Syrie, alors que la Russie abandonnerait la Tripolitaine et le golfe de Sirte au gouvernement national libyen appuyé par la Turquie? Comment voyez-vous les choses?
Bon, je vois que vous avez un plan de résolution qui est très élaboré. Je pense qu'on est dans des micro-négociations qui sont plus complexes. Peut-être que du côté de la Russie, du côté de Vladimir Poutine, on a une vision stratégique qui est, je dirais, plus large, parce que la Russie est un acteur et qui est plus éloigné de ce terrain. Je pense que la Turquie pousse ses intérêts de manière beaucoup plus opportuniste, avec un activisme qui est renouvelé depuis le début de la crise du Covid, comme on l'a vu. Or là, elle profite d'un moment où la Russie est conjoncturellement affaiblie, puisque pour le coup, le nombre des contaminations explose en Russie. On voit très bien que ça devient un problème intérieur majeur pour Vladimir Poutine. Et Tayyip Erdogan l'a bien senti, et la presse turque fêtait début juin les 100 ans des relations turco-russes, en glosant sur le rééquilibrage de la relation, le dialogue mutuel et le fait que ces deux grands acteurs stratégiques allaient enfin pouvoir s'entendre. Alors que jusqu'à présent, on avait l'impression que, notamment dans la crise syrienne, la Turquie s'était retrouvée embarquée par la Russie dans le grand dessin stratégique russe. Alors là, on a quand même des signes de nervosité russe, avec à la fois, bon, depuis le retrait des mercenaires de Libye, on a eu des attaques sur des villages à Idlib, et on a des signes de déploiement de troupes russes également dans le nord-est de la Syrie. Donc il n'est pas du tout évident qu'on soit pour le moment sur une situation qui soit vraiment apaisée entre la Russie et la Turquie en Syrie, parce que la Turquie en Syrie a aussi des intérêts importants, qui sont aussi des intérêts territoriaux, c'est-à-dire qu'avec Idlib, elle défend aussi, même si c'est une vision un peu paranoïaque, Hatay, qui est cette partie du gouvernement, le Sanjak d'Alexandrette, qui lui a été donné et que les Syriens considèrent comme faisant encore partie du territoire syrien. Elle n'a encore pas fini d'en découdre avec le PKK. Et d'ailleurs, on a eu des extensions de la lutte, enfin des affrontements entre l'armée turque et le PKK en Irak ces derniers jours. Donc la Turquie n'est pas du tout sécurisée encore, à mon avis, sur le terrain syrien, pas suffisamment pour qu'un accord soit facile à gérer, d'autant que Bachar al-Assad n'a pas oublié qu'Erdogan était son premier ennemi, à la fois chronologiquement et, je dirais, en termes de masse de combat jusqu'au retournement, qui fait qu'aujourd'hui la Turquie est alignée sur la Russie.
Alors, Marc Lavergne, Dorothée Schmitt, dans la première partie de l'émission, évoquait le moment Erdogan. Qu'est-ce que l'on sait des ambitions du président turc en termes de politique étrangère? On l'a compris avec la question libyenne, la position géostratégique de la Turquie sort renforcée, même si, là encore, et vous le disiez, la même n'est pas dite.
Oui, je crois que effectivement, la Turquie et l'idéologie qui est développée par Erdogan, c'est celle d'une nostalgie de l'Empire ottoman, une sorte de revendication de légitimité à s'intéresser à ses voisins arabes, à ce bassin oriental de la Méditerranée. Ça vaut pour la Syrie, ça vaut aussi pour la Libye, avec un élément supplémentaire pour la Libye qui est que pour la Turquie, c'est une porte vers l'Afrique. Et l'Afrique est le continent qui compte pour Erdogan. C'est là qu'il voit que la Turquie peut vraiment développer ses intérêts économiques, apparaître comme une grande puissance qui peut parler d'égal à égal d'une certaine manière, comme il le fait aujourd'hui avec Poutine, aussi bien avec les États-Unis, jouer ce jeu d'équilibre où on a vu la Turquie, qui est membre de l'OTAN, acquérir du matériel militaire russe, et inversement, il y a des relations fortes avec la Russie. Il y a une dépendance gazière, mais il y a aussi le passage par les Dardanelles et le Bosphore de la marine russe. Donc le bassin méditerranéen, si vous voulez, c'est un premier vase d'expansion, si je puis dire, pour la Turquie continentale, réduite dans ses frontières actuelles, mais il y a cette volonté de se développer pour des raisons économiques, pour des raisons historiques et aussi pour des raisons idéologiques peut-être, puisque quand même, il y a ce marqueur fort de l'AKP qui est assimilé aux frères musulmans, donc qui ont une vocation aussi, cette confrérie, à s'étendre dans l'ensemble du monde musulman.
Alors, Marc Lavergne l'évoquait, le matériel russe livré à Ankara. La Turquie ne parle plus, Jean-Marc Roux, d'activer les systèmes de défense antimissile russe S-400 livrés par Moscou en juillet 2019. Livraison qui avait été vivement contestée puisque, comme Marc Lavergne le rappelait, la Turquie est membre de l'OTAN. J'aimerais qu'on dise quelques mots sur l'armée. On a vu la rétrogradation puis la démission du chef d'état-major de la marine, architecte de l'engagement militaire d'Ankara en Libye. Comment expliquer cela? Et d'après ce que j'ai compris, il y a au sein de l'armée des dissensions avec des cercles militaires, les uns étant anti-occidentaux et les autres plutôt pro-occidentaux. Comment se situe l'équilibre autour de tout cela, Jean-Marc Roux?
Ah oui, limogeage finalement du chef de la marine Jihad Yaijie, qui apparaissait pourtant en conformité avec les objectifs de la politique étrangère de l'AKP, parce que il avait joué un rôle clé dans l'épuration des gulenistes, notamment de l'armée, qui avait même été salué publiquement par Recep Tayyip Erdogan, mais il a été aussi l'un des architectes de l'intervention turque en Libye, et il a même théorisé justement cette doctrine du Mavi Vatan, hein, la patrie bleue, qui a été reprise ouvertement par Recep Tayyip Erdogan. Donc ce renvoi apparaissait un petit peu comme paradoxal, et en même temps il dit un certain nombre de choses justement sur le fonctionnement de l'armée turque et ses relations avec le pouvoir politique. Parce que en réalité, ce que l'on sait, hein, c'est que finalement le renvoi du contre-amiral Yaijie vient quand même de pressions faites par le commandement militaire et notamment le ministre de la Défense qui est le général Hulusi Akar, ancien chef d'état-major d'ailleurs de l'armée turque, qui à l'heure actuelle est une sorte de super chef d'état-major de l'armée turque finalement, puisque même si l'armée turque a été depuis le coup d'état mise sous le contrôle du pouvoir politique et en particulier sous le contrôle du ministère de la Défense, le ministre de la Défense est en fait l'ancien chef d'état-major. Donc on sent bien que Recep Tayyip Erdogan doit encore tenir compte de cette armée qui finalement est dirigée par des cadres qui ont été formés dans les académies militaires avant même l'arrivée de l'AKP au pouvoir. Et donc ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Recep Tayyip Erdogan est obligé d'abandonner finalement des militaires médiatiques comme le contre-amiral Yaijie qui le caressait en quelque sorte dans le sens du poil. On se souvient quand, il y a quelques mois, il avait été obligé de se départir du général Metin Temel, qui était le commandant de la 2e armée, qui avait dirigé l'opération militaire à Afrin et qui lui aussi était très médiatique, prenait des positions très politiques, qui insupporte finalement le commandement militaire de l'armée. Donc il y a un équilibre justement qui se fait, notamment entre l'armée et le pouvoir politique, mais on voit bien que Recep Tayyip Erdogan est aussi obligé par certains côtés, de ménager l'armée et son commandement actuel. On le voit d'ailleurs aussi en Méditerranée orientale, parce que ces derniers jours, on a vu aussi, d'une certaine manière, en particulier le général Haftar, dire à répétition qu'il n'y aurait pas de conflit avec la Grèce. Et on a l'impression quand même que le commandement militaire turc veut mettre un petit peu la pédale douce sur l'escalade des derniers mois en Méditerranée orientale.
Dorothée Schmidt, vous partagez ?
Alors, je pense qu'il est effectivement très important de s'interroger d'abord sur les relations entre le pouvoir politique et militaire, puisque vous savez que une des grandes réussites de Tayyip Erdogan, finalement, c'est d'avoir mis l'armée au pas en Turquie, sachant que lui-même vient de cette matrice de partis politiques islamistes qui ont été constamment, au cours de leur histoire, été renvoyés dans leur foyer par des coups d'État militaires. Donc, la grande victoire symbolique, c'est la tentative échouée de putsch de juillet 2016. Oui. Et l'armée turque, traditionnellement, est une sorte de boîte noire dont on savait seulement qu'elle était, on la décrivait généralement comme ultra-kémaliste, anti-islamiste, sauf qu'après le coup d'État de 1980, l'armée finalement s'est plus battue contre la gauche que contre les islamistes en Turquie. Et d'une certaine façon, elle a favorisé leur émergence et leur consolidation politique. Et puis, finalement, on s'est aperçu avec le coup d'État de 2016, en tout cas l'explication officielle qui nous en est donnée, que l'armée était aussi traversée de courants, y compris de courants islamistes, qui ne sont pas les mêmes que ceux que Tayyip Erdogan aujourd'hui veut pousser, c'est-à-dire qu'il a accusé ce fameux prédicateur réfugié aux États-Unis, Fethullah Gulen, d'avoir ourdi le complot contre lui. Il a purgé, ensuite Erdogan a purgé l'armée très largement, donc on a considéré qu'elle était complètement aképisée. Maintenant, on peut considérer qu'on a encore, et c'est ce que Jean Marcoux décrivait, c'est une sorte de lutte d'influence entre finalement une armée plus traditionnaliste, formée encore à des visions plus kémalistes peut-être, et une armée plus pro-aképée, qui serait plus proche de cette vision d'une diplomatie pro-frères musulmans de la Turquie, voire l'eurasianiste, favorable à un rapprochement avec la Russie. Bon, tout ça, c'est quand même un petit peu des spéculations qu'on a. Ce qui me semble important, c'est la chaîne de commandement entre Erdogan, son ministre, qui est donc un ancien chef d'état-major, dont on peut considérer que c'est au contraire pour Erdogan quelque chose d'extrêmement pratique d'avoir promu ministre quelqu'un qui vient des rangs de l'armée à partir du moment où Erdogan, lui, contrôle totalement son gouvernement. Et personnellement, j'ai pas énormément de doutes sur le fait que quand Lucie Haftar, donc le ministre, s'exprime, c'est la vision du président qui est donnée. Donc sur la Grèce, je pense qu'il ne faut pas exagérer ces démonstrations de calme de l'armée turque. Je crois que simplement, on a été poussé à bout. Et on a aussi un ministre grec qui a dit qu'il était prêt à aller en guerre contre la Turquie. Donc finalement, le jeu de la Turquie, c'est toujours de pousser les choses à leur extrême limite, à l'escarmouche, et puis quand même d'essayer d'éviter la confrontation. Mais il se trouve qu'on a déjà dans le passé des exemples d'incidents. On a eu un fameux incident, notamment du Mavi Marmara avec Israël, qui a mené à une catastrophe et un gel des relations complet. Donc je crois qu'Erdogan est quand même assez conscient du fait que quand il joue avec la Grèce, il joue avec l'Union européenne, d'autant qu'il a besoin des Européens d'un autre côté pour le soutenir sur la question des réfugiés, pour le soutenir, pour s'affronter à lui. Mais aujourd'hui, la Commission européenne propose pour 2020, par exemple, une aide de près de 500 millions d'euros pour soutenir la gestion des réfugiés syriens en Turquie. Donc en fait, on est toujours dans une sorte d'escarmouche permanente dont je ne pense pas qu'Erdogan souhaite qu'elle débouche sur une vaste conflagration. Maintenant, évidemment, il est obligé de donner quelques gages à l'armée après l'avoir totalement ratiboisée et mise à sa main. Pourquoi ? Parce qu'il l'engage sur des terrains militaires. Donc évidemment, ça renverse un tout petit peu à nouveau le rapport en faveur des militaires qui ont le droit de réclamer quelque chose ici et là. Mais peut-être que ce limogeage du contre-amiral, c'est aussi tout simplement une volonté de ne pas laisser sortir trop de têtes populaires, puisque précisément, ce militaire était devenu l'idole de la presse en Turquie. Donc c'est peut-être aussi tout simplement une volonté de maintenir le calme dans les rangs de l'armée.
Alors, comment, dans ce contexte évoqué à la fois par Jean Marcoux et Dorothée Schmidt, Marc Laverne, voir et considérer ce rapprochement entre Ankara et Washington ? En tout cas, cette volonté de la part d'Ankara de se rapprocher de Washington.
Il y a une volonté, effectivement, de la part d'Ankara. Il y a peut-être aussi un intérêt du côté de Washington, hein, dans une sorte de confrontation, peut-être avec la Russie aussi, une façon de garder un pied quand même au Moyen-Orient pour maintenir des positions qui ont été un petit peu négligées depuis l'arrivée de M. Trump et même de M. Obama au pouvoir. Donc, il y a peut-être là, pour les États-Unis un moyen à moindre frais de rester dans le jeu, voyant que d'autre part il y a ses intérêts pétroliers qui sont aussi importants pour les États-Unis, enfin à l'échelle globale, hein, je dirais, la production potentielle de pétrole de la Libye, vous l'avez rappelé, est importante, hein, à l'échelle du continent africain, mais aussi à l'échelle globale. Donc ce jeu de tensions contrôlées au sein d'abord de l'appareil du pouvoir turc est quelque chose qui pose question, hein, parce que est-ce que l'armée turque est vraiment capable de se déployer comme on peut l'imaginer pour mettre à bas les forces qui restent au maréchal Haftar, c'est une question. Encore une fois, aujourd'hui, on a vu que des miliciens étrangers qui ont été déployés sur le terrain pour desserrer un étau avec de l'équipement militaire, effectivement, en particulier des drones. Hein. Le déploiement de l'armée, ça donnerait un poids politique à l'armée supplémentaire à l'intérieur de la Turquie. Et puis, l'armée, étant membre de l'OTAN, étant représentant la présence turque au sein de l'OTAN, elle a peut-être des penchants plus occidentaux, plus liés aux États-Unis, finalement, où beaucoup d'officiers sans doute ont été formés, que cette position neutraliste ou cette position, disons, d'équilibre stratégique que Erdogan veut développer.
Alors, on voit bien et on sent, Jean-Marc, où la Turquie avoir ce désir de figurer dans la cour des grands. Est-ce que, et ce sera malheureusement la dernière question pour cette émission, les actions d'Ankara en termes de politique étrangère sont à voir comme une façon de résoudre des problèmes internes d'économie, en particulier après la pandémie du coronavirus et l'impact sur l'économie avec une récession à venir qui n'est pas l'apanage malheureusement de la Turquie.
Bien sûr, le lien entre la politique étrangère, la politique intérieure est toujours présent. Et ce que disait Dorothée Schmidt, notamment concernant l'intérêt pour la Turquie de ménager en quelque sorte à nouveau l'Union européenne, est effectivement à prendre en compte, non seulement, je dirais, pour la question des réfugiés, et effectivement ce capital d'euros qui est offert par l'Union européenne pour la soutenir à nouveau dans l'accueil des réfugiés, mais également plus simplement sur le plan économique, parce qu'il faut se souvenir malgré tout qu'économiquement, en dépit des nouveaux débouchés qu'elle s'est ouverte, la Turquie, malgré tout, dépend fortement pour ses exportations, ses importations, ses investissements de l'Union européenne. Et donc, dans un contexte justement de fin d'épidémie et de relance de l'économie, la relation économique avec l'Union européenne reste à prendre en compte. Alors par ailleurs, la politique étrangère de la Turquie joue un rôle sur le plan intérieur. On l'a bien vu en Syrie, on a bien vu que justement l'engagement militaire de la Turquie en Syrie a quand même suscité en Turquie, et ça s'est retranscrit sur le plan électoral, une certaine inquiétude hein, effectivement des Turcs. Mais là, on a aussi avec l'objectif de la patrie bleue, avec cet objectif très nationaliste en mer Égée, de défense des droits de la Turquie, on a effectivement aussi des arguments qui peuvent flatter le nationalisme bien au-delà des cercles traditionnels qui soutiennent l'AKP. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire, dans le contexte actuel, la Turquie, et en particulier plus exactement le gouvernement turc, est déjà en train de préparer de prochaines élections. D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'il y a une réforme électorale qui est à nouveau en cours, hein, qui viserait d'ailleurs à empêcher les partis politiques dissidents, enfin fondés par des dissidents de l'AKP, d'accéder finalement au Parlement. Donc de ce point de vue-là, en dehors de ce grand jeu diplomatique sur lequel on a insisté, la position malgré tout du gouvernement turc et en particulier de Recep Tayyip Erdogan, on l'a vu lors des dernières municipales, est une position fragile et on voit très nettement à l'heure actuelle que le gouvernement turc est déjà à la manœuvre pour préparer préparer les prochaines échéances de politique intérieure.
Merci Jean-Marc Roux. Je rappelle que vous êtes professeur et titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Merci aussi Dorothée Schmitt, responsable du programme Moyen-Orient et Turquie à l'IFRI, et Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient arabe et de la Corne de l'Afrique et membre du laboratoire Monde arabe et Méditerranée de l'Université de Tours. Voilà ce que l'on pouvait dire au moment de son enregistrement le 11 juin de cette émission sur la Turquie. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Kalédek et Thibaut Baduel. Samedi prochain, c'est Chantal Leroux que vous retrouverez. À très bientôt.
Musique du monde.